Je vais introduire ce moment de témoignage par le verset suivant. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand et tu es puissant en action. En action, il est dit dans ce verset-là. Et un autre verset qui dit juste un refuge. Dieu est pour nous un refuge au jour de la détresse. Dieu est pour nous un secours dans le psaume 60, un secours contre la détresse. Dieu est pour nous un secours contre la détresse. Il n'est pas en faveur de la détresse, il est contre la détresse. Et je voudrais glorifier le nom de Jésus et je voudrais que vous le fassiez avec moi pour ce que Dieu a fait au milieu de nous l'année dernière. Nous n'allons pas être ingrats pour ce qu'il a fait l'année dernière et je voudrais relever des choses que certains d'entre vous ont vues l'année dernière ici, ont entendues et puis d'autres choses que vous ne savez pas, des rapports qui nous sont parvenus après, plus tard. L'année dernière, nous avons vu la joie de voir le Seigneur toucher plusieurs malades au milieu de nous. Le Seigneur a guéri des douleurs dans les genoux. Il a guéri des douleurs dans un thorax vieil de plusieurs années. Il a guéri une colonne vertébrale qu'il a redressée et il a renouvelé plusieurs personnes spirituellement. Beaucoup de personnes ont été renouvelées par sa présence. Parce que quand le Seigneur est présent au milieu de nous, il se passe quelque chose. Nous ne pouvons pas rester les mêmes, c'est impossible. Si le Dieu vivant est vraiment au milieu de nous, forcément que nous ne pourrons pas sortir de ce lieu les mêmes. Si Dieu nous a touchés, ce n'est pas possible. Sinon, il ne serait pas Dieu. Alléluia. Et je voudrais surtout appuyer sur quelqu'un qui, l'année dernière, était vraiment gravement malade et n'en était pas conscient. Sa vie, finalement, tenait à un fil. Il était cardiaque, de graves problèmes cardiaques. Il n'est pas là aujourd'hui. Sans l'épouse non plus, ils auraient aimé être là, ils ne sont pas là. Et cet homme était là, au milieu de nous. Il ressentait une très grande fatigue générale. Et il s'est rendu chez le médecin pour voir ce qui se passait comme ça, sans bien savoir ce qui lui arrivait. Et le médecin généraliste l'a immédiatement envoyé chez le cardiologue, qui lui a été alerté, mais alerté au maximum, si bien que la cardiologue lui a fait une piqûre immédiatement dans son cabinet à peine arrivé, parce qu'elle a vu l'urgence. Cet homme souffrait d'irrégularité cardiaque, d'une tension très élevée et d'un sang beaucoup trop épais, si bien qu'une embolie cardiaque ou cérébrale était imminente. C'était un cas d'extrême urgence. Et il était là au milieu de nous, là, comme vous êtes là aujourd'hui. Savez-vous ce qui se passe dans votre organisme? Pas forcément. Lui non plus ne le savait pas. Mais le Seigneur le sait. Et il est là pour intervenir quand il le faut. Donc, cet homme était en danger. Il devait entrer en clinique au mois de janvier de cette année. On devait lui faire des électrochocs pour remettre une valve de son cœur en place. Celle-ci ne se fermant plus. C'était la raison pour laquelle il se trouvait en danger d'embolie. Alors, à la convention l'année dernière, une parole de connaissance dit, et on l'entend sur les DVD, sur les films qui ont été montés, on l'entend cette parole, que quelqu'un, le Seigneur m'a donné cette parole de connaissance, disant que quelqu'un a de graves problèmes cardiaques et qu'il a un problème avec ses plaquettes, les plaquettes de son sang, et c'était vrai. C'est exactement cela. Et que le Seigneur touchait cette personne, là, ici. Alors cet homme est rentré chez lui, donc il devait être hospitalisé en janvier. Quelques mois plus tard, il retourne chez sa cardiologue, qui ne fut pas surprise de trouver notre homme au problème cardiaque complètement réglé. Des échographies et radios démontrant une guérison totale. Amen. Alléluia, Seigneur. Et cette cardiologue a dit, je n'y comprends plus rien. Monsieur, quelque chose s'est passé, je n'y comprends rien, mais votre cœur est désormais tout à fait normal, vous pourrez venir me revoir dans un an pour contrôle. Alléluia. Nous voulons louer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ce qu'il a sauvé cet homme, dont la vie tenait à un fil, à un fil. Il pouvait partir là au milieu de nous. Là, c'était justement un couple qui était dans la détresse, puis comme je le disais, que le Seigneur est pour nous le secours contre la détresse. Et son épouse, elle, était atteinte du cancer d'un sein. Et il y a plusieurs années auparavant, elle avait subi des mammographies qui avaient montré qu'il y avait une opacité dans un de ses seins. Elle a été opérée, mais sans ablation du sein. Mais elle a dû faire pendant un an de la chimiothérapie. Donc ça vous montre ce que c'est. Chimiothérapie, radiothérapie, laser. Et le cancérologue, chaque fois que cette dame allait voir le cancérologue, elle lui disait, docteur, dites-moi s'il vous plaît où j'en suis avec le cancer. J'en suis où? Et il ne disait jamais rien, ne précisait jamais rien. C'est ce que les docteurs font quand ils ne veulent pas nous dire quelque chose, souvent. Alors elle a été prise d'angoisse, elle vivait dans l'angoisse constante. Elle se disait, bon, ben, c'est encore là, apparemment il ne me dit pas que le problème est réglé, donc c'est encore là. Alors, un jour, elle en a eu assez d'être dans l'angoisse. Elle a dit, Seigneur, maintenant, s'il te plaît, Seigneur, puisque le cancérologue ne veut pas me le dire, s'il te plaît, dis-le-moi, toi, où est-ce que j'en suis? Et c'est ce qu'il a fait, le Seigneur. Cette dame est venue à la convention ici, l'année dernière, et pendant le culte du dimanche matin, le Seigneur a répondu à sa prière. Le Seigneur m'a donné une parole de connaissance disant, tu es guéri de ton cancer. C'était de la part du Seigneur. Tu es guéri de ton cancer. Crois-le. Je le fais maintenant. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, à toi la gloire. À toi la gloire. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur, la gloire. Alors elle dit, le Seigneur venait donc de me guérir, de répondre à mon cri aussi d'angoisse et mon intense souffrance morale. Il venait aussi d'enlever ce terrible doute qui me hantait depuis 10 ans. C'est pas rien. Vous ne trouvez pas? Moi, je sais que si j'étais hantée par quelque chose comme ça pendant 10 ans, eh ben, ça marquerait mon existence. Et je pense que ça marquait la sienne. Et ça marquerait la vôtre si vous l'aviez. Alors, mais lui, le Seigneur, lui, est compatissant, tendre, un tendre père. Alors, après, il y a eu ici une autre dame qui a été merveilleusement et glorieusement touchée par le Seigneur. Cette dame-là, elle souffrait de fortes dépressions, de crises d'angoisse et d'insomnie depuis 30 ans. 30 ans, s'il vous plaît. 30 ans. C'est la moitié d'une existence. Ou le tiers aujourd'hui. C'est long. 30 ans, c'est très long. Cette dame s'appelait Claudette. Elle figure sur les films de l'année dernière aussi. On la voit et elle dit certaines choses. Elle était donc fortement dépressive, sous traitement antidépresseur, tranquillisant et somnifère depuis 30 ans. Un lourd traitement. Et ce qui s'est passé, et vous verrez que c'est important ce que je vous dis là, parce que l'obéissance de cette personne a permis au Seigneur de la guérir. Notre obéissance ou notre refus d'obéissance peut aussi empêcher le Seigneur de nous guérir. Donc je vous exhorte aussi à obéir quand le Seigneur vous parle. C'est très important. Si vous attendez quelque chose du Seigneur, n'attendez pas qu'il le fasse si vous êtes obstiné à en faire à votre tête. L'obéissance est très importante. Alors cette dame, elle avait dans son sac à main une statuette de Jésus qu'elle embrassait de temps en temps. Elle voulait ainsi témoigner de l'amour au Seigneur, mais c'est pas comme ça qu'on fait. La Bible ne nous exhorte pas à faire de telles choses. C'est de l'idolâtrie. Et Samuel et moi, entre deux réunions, nous l'avions mis en garde. Et nous lui avions dit, ça, c'est, le Seigneur ne permet pas de telles pratiques. Alors, je pense qu'elle en a tenu compte dans son cœur. Enfin, toujours est-il qu'à la réunion du samedi après-midi, ben, cette réunion-là, l'année dernière, une parole de connaissance a été donnée qu'une personne est accablée d'angoisse et que l'insomnie est monnaie courante dans ses nuits et qu'elle était comme enchaînée dans une prison. Mais que le Seigneur voulait entièrement la délivrer. Alors cette dame, elle a reçu cette parole dans son cœur. Elle est allée dans sa chambre le soir. Elle a obéi à la parole qu'elle a entendue entre deux réunions, là. Elle a jeté sa statuette dans les toilettes. Elle a obéi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a alors été touchée par la puissance de Dieu. Et pour la première fois depuis 30 ans, elle a pu dormir sans somnifère, sans calmant, sans tranquillisant. Alléluia! Alléluia, Seigneur! Louange à toi, Seigneur! Alléluia! Gloire à ton nom! Vous savez ce qu'elle a dit? C'est merveilleux. Elle a dit, c'est la première fois depuis 30 ans que j'ai dormi comme un bébé. C'est ce qu'elle a ressenti. Et un mois environ après la convention, on a encore eu de ses nouvelles et cette dame n'a plus aucune angoisse ni insomnie. Elle vit dans une joie reconnaissante au Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Tout ça, l'année dernière. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Parce qu'on pense que les paroles de connaissance ne sont faites que pour le moment présent. C'est-à-dire les gens qui sont à la réunion aujourd'hui. Et le Seigneur a montré bien des fois qu'il n'est pas limité par ces paroles de connaissance-là pour seulement les gens qui sont présents. Il peut agir même au travers d'un enregistrement, d'une cassette, d'une vidéo, d'un CD, d'un DVD. Il peut agir encore. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dame à Paris qui n'a pas pu venir à la convention l'année dernière, à laquelle j'ai envoyé certaines cassettes de la convention, sur laquelle j'avais une parole de connaissance qui disait que quelqu'un était guéri d'une forte sinusite qui durait depuis 2 mois, et que le Seigneur guérissait quelqu'un de sinusite et de maux d'oreille. Alors elle, comme il n'y a pas de distance pour Dieu non plus, dans la prière, elle a pris cette parole pour elle-même, de la cassette. La croyant de tout son cœur, elle a aussitôt confessé sa guérison. Vous voyez son obéissance aussi là? Elle a pris, elle a confessé, elle a dit « Merci Seigneur, tu m'as guéri aussi ». Elle l'a pris pour elle et la sinusite a disparu et les maux d'oreille aussi, par la cassette. Alléluia! Oh louange, louange à toi! Il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Au Canada aussi et ailleurs, j'ai vu le Seigneur guérir 2 personnes du cancer des intestins par une seule parole de connaissance. Ça fait que souvent les gens viennent me voir et me dire « Mais est-ce que quelqu'un est venu vous dire que c'était lui ou que c'était elle, la parole que vous avez donnée ?» Je dis « Peu importe, si même une autre personne est venue, prends-la pour toi aussi. » Le Seigneur n'est pas limité à une seule action par sa part, par une de ses paroles. Il est digne de notre adoration. Et c'est lui que nous voulons glorifier maintenant. Et le remercier pour tous ces bienfaits qu'il a fait l'année dernière. Combien il nous a honorés de sa présence. Combien nous nous sommes réjouis devant lui. Combien nous avons chanté les gloires de l'agneau l'année dernière. Et nous recommençons cette année encore. Parce que le Seigneur nous a donné un rendez-vous ici, de tous les coins de France. Et d'ailleurs, il y a même des Canadiens qui sont là. Alléluia, merci Seigneur. Loué soit ton grand nom, Seigneur. Nous, de toute nation, de tout peuple, tu as des enfants partout. Et nous te louons, nous te glorifions, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Et nous voulons nous incliner devant toi, écouter attentivement la prédication de ta parole et continuer d'élever vers toi des mains pures, un cœur pur et sanctifié. Sois béni, adoré, loué au siècle des siècles. Amen.
Amen. Seigneur, merci pour ta grande compassion. Nous lisons dans ta parole que tu étais ému de compassion devant les malades et que tu en guérissais. Seigneur, tu le fais encore aujourd'hui pour ceux qui croient, tout simplement. Nous le croyons, Seigneur. Continue ton œuvre dans nos vies. Mais tu parles aussi. Tu veux que l'on t'aime, que l'on te suive, que l'on soit de vrais chrétiens, de vrais disciples de Jésus. Car malheureusement, il y en a de faux disciples, comme il y a aussi de faux chrétiens. Seigneur, aide-nous à bien comprendre ta parole et être de vrais chrétiens. Merci, Seigneur, pour ce que tu veux nous dire maintenant. Rends-nous attentifs à ta voix.
Amen.
Et surtout obéissants à ce que tu veux nous dire.
C'est vrai.
Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur est là encore. Même lorsque nous ne voyons rien, le Seigneur est à l'œuvre. Ne l'oublions pas. Beaucoup d'entre vous, vous êtes rentrés l'année dernière, vous ne saviez pas que ces choses étaient passées. Et pourtant, Dieu avait agi. Dieu a agi. À partir du moment où nous croyons, le Seigneur peut faire des choses merveilleuses. Il a tout accompli. L'œuvre de Golgotha est parfaite.
Amen.
Il ne nous demande qu'une chose maintenant, de croire et de recevoir. Amen. Mais c'est à lui qu'il faut regarder, et non pas à l'homme.
Non.
Et j'aimerais apporter un premier message important. Parce que ce message répond à une question que des multitudes de gens se posent. Non seulement des inconvertis, mais aussi des chrétiens. Les inconvertis se posent la question, est-ce que Dieu m'aime vraiment? N'est-ce pas vrai? Si Dieu nous aimait vraiment, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela, n'est-ce pas vrai? Et alors, cette incrédulité à l'égard de l'amour de Dieu, comme si Dieu n'avait rien fait, comme s'il était insensible, comme s'il devait encore revenir maintenant, quitter le ciel et revenir mourir sur la croix. On ne comprend pas l'amour de Dieu et on doute de cet amour. Pas seulement les incrédules, mais aussi des chrétiens, à cause de certaines circonstances dans leur vie. Doute vraiment de l'amour de Dieu. Et ça, c'est terrible, n'est-ce pas vrai? Et une telle attitude peut bloquer une vie spirituelle. Car c'est le plus grand des mensonges. C'est le plus grand des mensonges. Si vous croyez cela, ce mensonge vous détruira. Parce que ce n'est pas la vérité. Et quelle est la preuve que Dieu nous aime? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Il y a un beau verset dans l'épître de Paul aux Romains, Romains 5, 8, vous connaissez ce passage. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je répète ce verset. Mais Dieu prouve son amour, soulignez le verbe prouver, prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour. Cela veut dire qu'il a donné la preuve. Et c'est la preuve finale qu'il a donnée à l'humanité. Il ne va pas revenir mourir. Il ne va pas revenir dire aux gens, « Mais je vous aime, pourquoi vous ne croyez pas ?» C'est fini ça. Il l'a fait une fois. Et il l'a fait pour la dernière fois, sur la croix. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a là, dans ce verset, quelque chose qui peut nous révolutionner complètement concernant l'amour de Dieu. Mais pour bien comprendre ce verset, il faut toujours lire un peu le contexte. Parce que lorsque nous lisons cela, oui, Dieu prouve son amour envers moi, en ce que nous étions encore pécheurs et Christ est mort pour nous, voilà, pécheurs, oui, Dieu a aimé les pécheurs. Et on passe à la légère sur certains mots. Parce que ces mots nous dérangent aussi. Parce que nous n'acceptons pas le verdict de Dieu concernant la méchanceté, la noirceur et les ténèbres du cœur de l'homme. Car nous allons le voir, cet amour de Dieu s'est manifesté dans un contexte. Cet amour a brillé parce que les ténèbres dans le cœur de l'homme étaient grandes. Amen. Les ténèbres étaient grandes. Et c'est dans ce contexte-là que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus sur la croix, s'est manifesté d'une manière éclatante. Plus la nuit est noire, plus la lumière brille.
Amen.
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 En contraste, plus c'est noir, plus la lumière peut briller. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Et il nous faut comprendre cela, surtout quatre mots importants pour bien comprendre jusqu'à quel point Dieu nous a aimés, qui il a aimé. Parce qu'il ne peut pas aller plus loin que son amour. Il ne peut pas aller plus loin. Il y a quatre mots, nous allons nous arrêter à cela. Toujours dans Romains 5, au verset 6, juste un peu au-dessus, nous allons lire. Car lorsque nous étions encore... Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Sans force. Soulignez sans force. C'est le premier mot sur lequel nous allons revenir. Car lorsque nous étions encore sans force, qu'est-ce que ça veut dire sans force ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Voyez-vous, on lit cela. Mais si on ne s'arrête pas pour piocher un petit peu pour voir ce que ça veut dire, nous étions sans force, bon, plutôt, on était faibles, fragiles. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Si vous ne grattez pas un petit peu, vous ne découvrirez pas le contexte et le message. Soulignez bien, sans force. Car lorsque nous disons sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des... Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Des impies. Soulignez ça aussi. C'est le deuxième mot. Un impie, c'est quoi ? Vous voyez, là aussi, on lit sa Bible. Et la Bible dit bien que nous étions cela. Attention ! C'est pas seulement quelques personnes. Nous, on dit, oh oui, c'est quelques personnes. J'en connais, moi, je les connais. J'en connais un ou deux, ils sont comme ça. Non, 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 c'est toi. C'est toi. C'est moi. Et c'est ce que le Saint-Esprit voudrait appliquer. Parce que bien souvent, lorsque nous avons des problèmes avec l'amour de Dieu, on pense, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu ne m'aime pas ? On essaye de mériter son amour. Qu'est-ce que j'ai fait ? Comme pour dire, hé là, oh, pour qui vous me prenez ?
Je ne suis pas si mauvaise que ça, pas si mauvais que ça, je ne suis pas si terrible que ça. C'est pourquoi nous avons des psychologues maintenant, même chrétiens, entre guillemets, qui disent qu'il faut s'aimer soi-même, alors que Jésus a dit qu'il fallait renoncer à soi-même. C'est pas le même évangile. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pour qui vous me prenez? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais je ne suis pas si pire que ça. Je ne suis pas d'accord. Toutes ces réactions montrent une incompréhension totale du cœur de l'homme, de votre cœur, de mon cœur. Et c'est cela que nous devons, que le Saint-Esprit voudrait imprimer. Si vous réalisez ce que vous êtes sans Christ, alors l'amour de Dieu après va briller d'un éclat extraordinaire. Réaliser que Dieu a aimé de telles personnes, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va aller un peu plus loin. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être, oui, à peine, peut-être, voyez-vous, parce que la parole, à peine, quelqu'un pouvait mourir pour un juste. Si quelqu'un meurt pour un juste, à peine, ça veut dire, on ne le fait pas volontairement. On réfléchit. Comment, moi, mourir pour quelqu'un? Pour quelqu'un même de bien? À peine, on n'ose pas, on voudrait bien. Voyez-vous, on est là hésitant, même pour donner sa vie pour un juste. Et peut-être mourrait-on pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Alors là, c'est une autre situation. Soulignez le mot pécheur maintenant. Ah oui, vous savez ce que ça veut dire pécheur. Mais on ne gratte pas assez aussi ce que ça veut dire. On a tellement entendu parler pécheur qu'on ne veut plus en entendre parler maintenant. Et dans combien de prédications vous entendez parler de pécheur maintenant? Il n'y a plus de péché, il n'y a que des maladies, des complexes, des incapacités, de la fragilité. Voilà tout ce qu'il y a maintenant. On essaye de panser les blessures graves, mortelles, en mettant une petite pommade dessus. Et voilà pourquoi il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de transformation. Mais Dieu prouve son amour en ce que nous étions encore des pécheurs. Nous allons voir en peu de mots ce que c'est qu'un pécheur. Et allons plus loin, il est mort pour nous à plus forte raison, maintenant donc que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions quoi? Qu'est-ce que vous avez dans vos billes maintenant? Ennemis! La liste devient sérieuse, vous êtes d'accord avec moi? Soulignez ce mot encore, ennemis. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie, par sa vie. Voyez-vous le contexte ici? Comment cet amour s'est manifesté? Dans quelles circonstances? Je lisais dans un commentaire aussi qu'avant la venue de Jésus sur la terre, le dernier prophète, quand on lit, c'est Malachie, n'est-ce pas? On voit que c'est Malachie. Et du temps de Malachie, le prophète, en Israël, la situation spirituelle était extrêmement grave. Même, je lisais tout à l'heure quelque chose, au chapitre 1 de Malachie, il est dit, « L'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, qui dites, en quoi t'avons-nous méprisé? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table du Seigneur est méprisable, quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Et plus loin, il est dit, lequel de vous fermera les portes? Parce que, juste là, quand vous en offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Voyez-vous? La situation en Israël était des plus lamentables. même les sacrificateurs offraient des animaux qui n'étaient pas parfaitement saints. Alors qu'on le sait, Dieu était très exigeant. On ne devait jamais offrir un animal qui avait une infirmité, n'est-ce pas vrai? On le sait. Ou aveugle, ou une patte cassée, ou je ne sais quoi. Et voilà que les sacrificateurs offraient cela à Dieu. Et ils disaient encore, en quoi t'avons-nous méprisé? Aujourd'hui, c'est la même chose. On dit, moi, j'aime le Seigneur, je fais beaucoup de choses. En quoi je l'ai offensé? Il devrait au contraire un peu être satisfait de moi. Et c'est ainsi que les conditions étaient tragiques. Et c'est pourquoi la gloire de Dieu avait quitté le temple du temps de Malachie. Les ténèbres étaient grandes, très grandes. Et cela a duré 400 ans. De Malachie à la venue de Jésus, 400 ans ont passé de ténèbres, d'obscurité totale. Et c'est quand cette obscurité était totale que la lumière de Dieu a brillé et que Jésus est venu apporter la réponse et la solution à tous ces problèmes. Amen. C'est quand la nuit était la plus noire que Jésus, la lumière du monde, est venu et a opéré quelque chose d'extraordinaire, un sacrifice que l'on chantera, que l'on publiera pour l'éternité. Alléluia! Nul ne doit oublier ce que Christ a fait. Mais il l'a fait pour qui? Il l'a fait pour ces quatre personnes. Parce que vous le savez comme moi, la parole de Dieu dit que Jésus n'est pas venu chercher des justes, mais des pécheurs. Mais des pécheurs, pas des justes. C'est pourquoi nous devons comprendre cela. Pour certaines personnes ou certains chrétiens, le pardon de Dieu correspond un peu à un pardon où on leur remet une dette, par exemple une dette de 10 euros. T'es pardonné? Oui, je suis pardonné. Oui. Combien ta dette? Pas grand-chose. Moi, je suis quelqu'un de bien, moi. Il n'a pas dû me pardonner. 10 euros, à peu près. Vous croyez que cette personne-là va sauter au plafond et dire, Seigneur, quel amour tu as eu pour moi? Au contraire, il va se moquer de Dieu. Il va se moquer. Et il va tout faire pour se justifier devant Dieu, d'une manière ou d'une autre. Tandis que d'autres, qui ont réalisé leur état de perdition, les ténèbres dans lesquelles ils étaient. Et la parole de Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et il y a une version qui dit, le cœur de l'homme est tortueux et incurable. Vous entendez? Incurable. Mais c'est la chose la plus difficile à admettre aujourd'hui. On est dans une société où on dit encore, l'homme est foncièrement... N'est-ce pas vrai? Et c'est là la tragédie. Une telle parole révèle une ignorance totale de la parole de Dieu et du cœur de l'homme. Foncièrement bon. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est incurable. Foncièrement mauvais. Mauvais. Et nous devons réaliser cela. Et alors après, le pardon de Dieu pour nous, lorsque nous réalisons tout cela, correspond à 10 millions d'euros. Le Seigneur nous remet une dette de 10 millions d'euros. Alors celui-là ou celle-là, je vous assure, c'est autre chose. Là, cette personne a parlé de l'amour de Dieu, de quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce qu'il était ou elle était avant, n'est-ce pas vrai? À quoi correspond ton pardon? À 10 euros ou à 10 millions d'euros? Jésus a dit une fois, celui à qui on a peu pardonné, il aimera peu. Mais celui à qui on a beaucoup pardonné, il aimera beaucoup. Ne l'oublions pas. Alors voyons brièvement le premier mot. Le premier mot, c'est donc lorsque nous étions sans force. En grec, ce mot signifie être sans force pour faire quoi que ce soit concernant sa propre condition devant Dieu. C'est être sans force pour faire, pour changer quoi que ce soit concernant sa propre condition devant Dieu. C'est ça, être sans force. Et combien de personnes en disent, moi je me débrouillerai. Moi je pourrais m'en sortir. Mais vous verrez, je vais m'en sortir. Non, c'est une ignorance totale. Lorsque nous étions sans force, et Dieu nous dit cela, c'est lorsque les hommes sont totalement à l'extrémité qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent rien faire pour remplir les conditions divines. Que Dieu est venu, que Dieu vient dire, voilà, toi tu ne peux rien, mais moi je peux tout. Toi tu es perdu, tu réalises, mais moi je veux te sauver. C'est quand tout va au plus mal que Dieu vient à notre secours. Quel amour, vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, l'amour de Dieu se manifeste justement à l'égard des personnes sans force, qui ont réalisé que, par eux-mêmes, ils ne pourront jamais, jamais s'en sortir. Et quand quelqu'un vient et vous dit, mais moi, je t'en sortirai, et que celui-là, c'est le Fils de Dieu, et qu'il vient au moment où nous en avons le plus besoin, n'est-ce pas un témoignage d'amour? N'est-ce pas un témoignage d'amour? Voilà déjà l'amour de Dieu qui brille d'une manière extraordinaire lorsque j'étais sans force, incapable de me changer moi-même, incapable de changer quoi que ce soit. Il est venu, le Fils de Dieu, il est venu, il est mort pour moi, pour me sauver, pour me donner son Esprit Saint, afin que je puisse accomplir par sa force, par son esprit, sa volonté. Alléluia!
Amen.
Quel amour! Lorsque nous étions sans force, Jésus est venu. Lorsque nous étions complètement incapables de changer quoi que ce soit, il est venu, lui, pour changer quelque chose. Et pas seulement quelque chose, il vient pour tout changer. Et beaucoup d'entre vous avez certainement ce témoignage que lorsque nous étions complètement sans force, mais je dis bien complètement, il n'y a pas un petit peu encore de force où on peut se débrouiller soi-même. Non, c'est une condition désespérée où vous devez avoir un secours extérieur à vous-même. Et à ce moment-là, au moment où vous en avez besoin, il vient. Alléluia! Alléluia! Et vous pouvez dire, quel amour! Quel amour! Seigneur, tu es celui-là! Je t'ai vu dans ma vie! Sans force! Si tu te crois encore fort par toi-même, Dieu te laissera tranquille. Mais tu iras de défaite en défaite, malgré ta force, qui n'est que faiblesse. Il est venu pour ceux qui étaient sans force. Et nous sommes tous sans force. Il faut que l'Esprit de Dieu nous donne d'accepter cela. Vous devez accepter cette réalité. Même si vous ne voyez pas les choses, mais vous devez dire, Seigneur, si ta parole de Dieu, ta parole le dit, je le crois. Nous devons le croire. Et c'est alors que l'Esprit de Dieu pénètre tout cela en nous et nous donne ce sentiment d'incapacité totale. Et lorsque nous sommes dans ce sentiment-là, le Seigneur n'est pas loin. Alléluia! Son amour n'est pas loin. Il ne nous fait pas attendre une minute de plus. Il est le bon berger.
C'est vrai.
Lorsque nous étions sans force, et on le voit dans les Écritures d'une manière générale, le miracle est arrivé quand l'homme était à son extrémité. Quand les hommes ont dit « Tout est perdu maintenant », c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Et nous pouvons dire « Quel amour, Seigneur !» N'est-ce pas merveilleux ?
Oui.
Quel amour! Quel amour! Quelqu'un qui croit cela ne doutera jamais de l'amour de Dieu.
Jamais.
Jamais. Jamais. Parce que vous pouvez dire, j'étais sans force, totalement désespéré, incapable, perdu humainement. J'ai crié à lui, il est venu.
Oui.
Là, vous découvrez son amour. Et plus jamais vous doutez de cet amour. Amen. Allons un peu plus loin. Le deuxième mot maintenant. On a vu, c'était Christ, au temps marqué, est mort pour des... Voyez-vous, au temps marqué. Donc, le Seigneur vient toujours au bon moment. Il vient toujours au bon moment. Il ne fait pas attendre 5 minutes de plus. Ce qu'il arrête, c'est notre position, c'est notre attitude, c'est nos discussions, c'est nos doutes, c'est nos craintes. Tout cela l'empêche. Alors, qu'est-ce que le mot « impie » veut dire ? Le mot grec signifie « être absolument sans respect ou adoration pour Dieu ». Ce mot « impie » veut dire cela. On est des êtres sans aucun respect ou ayant un esprit d'adoration pour Dieu. Voilà ce que c'est qu'un impie. Voilà ce que vous êtes aussi en Christ. Voilà ce que nous étions. Avons-nous réalisé cela? Ah oui, non, mais, oh, pas du tout. Moi, j'aime Dieu. Toute ma vie, je l'ai aimé. Voyez-vous, on cherche toujours une échappatoire. On ne veut jamais admettre le verdict divin. On veut toujours un peu arranger les choses. Oh oui, mais moi je le respecte. Mais ce n'est pas du tout le respect dont Dieu veut. Ce respect qui est une obéissance, qui se donne entièrement et qui vit pour Dieu. Voyez-vous, pour des impies qui n'ont aucun respect pour Dieu et aucune vraie adoration. Parce que l'homme a été créé pour adorer Dieu. Dieu a vu la condition de l'homme dans cet irrespect total. Car s'il n'adore pas le vrai Dieu, il s'adorera lui-même ou il adorera d'autres idoles. Est-ce que les gens n'adorent pas des idoles aujourd'hui? Dites-moi un petit peu. Ah oui, mais il y en a, vous savez comment ils en sortent? Ils disent, moi j'adore Dieu, et puis les idoles un petit peu à côté. Et ils pensent que comme ça, tout le monde est content. Si Dieu est Dieu, aucune idole ne doit tenir devant sa face. Aucune idole, Dieu est Dieu. Nous devons cette adoration à Dieu seul. Donc nous étions des impies. Nous avons adoré d'autres idoles. Nous avons respecté d'autres personnes plus que Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, si tu aimes ton père et ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aimer nos parents, loin du tout, pas du tout. Mais que Jésus doit prendre la première place. Et quand je prends ce verset, je pense toujours à cette petite fille, une maman avait dit à sa fille, quand elle était petite encore, moi j'aime beaucoup le... je t'aime, tout ça. Attends, voir comment. Oui.
Non,
c'est la petite fille.
La fille
qui lui pose la question.
Lui avait demandé.
Voilà.
Est-ce que tu m'aimes plus que le Seigneur?
Voilà, c'est la petite fille qui avait demandé à sa maman, est-ce que tu m'aimes plus que le Seigneur?
Aïe, aïe, aïe.
Ça, c'est une question difficile, n'est-ce pas vrai? Si on vous pose la question, votre petite fille ou votre petit garçon, n'importe qui. Est-ce que tu m'aimes, moi, plus que le Seigneur? La maman a été très surprise. Et Dieu lui a donné la sagesse. Et lui a dit ceci, écoute ma petite fille, plus j'aime le Seigneur, plus je t'aimerai aussi.
Alléluia!
Alors la petite a dit, ben, aime beaucoup le Seigneur, comme ça tu m'aimeras beaucoup aussi. Et c'est ça qui est merveilleux. Amen? C'est ça qui est merveilleux. Aime le Seigneur, impératif. Et tu m'aimeras aussi. Mais Jésus veut dire par là qu'il doit avoir la première place.
C'est vrai.
Nous devons veiller à ce que les autres ne prennent pas la place de Dieu dans notre vie.
Non, c'est vrai.
Qu'il y ait un respect démesuré, déséquilibré. Dieu doit avoir la première place. S'il a toute la place, alors nous pourrons aimer. Nous pourrons être des témoins merveilleux de sa personne. Alléluia. Plus nous aimons le Seigneur, plus nous aimerons nos bien-aimés. Mais moins nous aimons le Seigneur, moins nous pourrons les aimer, parce qu'il est la source de la vie, de la sagesse, de l'amour. C'est lui, c'est le Seigneur. Si nous sommes branchés au Seigneur, il y aura la lumière. Mais si nous ne sommes pas branchés, nous serons dans les ténèbres. Il est le premier et le dernier, et le vivant au siècle des siècles.
Amen, amen.
Un impie. Nous étions, tu étais un impie. Oh. Pas d'accord. Ah, pas d'accord. Voilà pourquoi tu doutes de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi tu as des problèmes encore. Est-ce que Dieu m'aime? Parce que tu te prends pour quelqu'un de bien. Et la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu veut te dire que tu étais un impie aussi. Un impie, c'est dur à avaler ça. C'est des pilules dures à avaler. C'est dur au départ, mais après, c'est dur ici, c'est amer ici. Mais après, c'est comme du miel en bas. Comme du miel. Mais d'abord, c'est d'abord l'amertume. Et après le miel. Nous, on veut que du miel. On veut que des pilules au miel, nous. On veut pas d'amertume, on veut rien du tout, que du miel. Mais il n'y a rien qui change. On devient mielleux. On est là, il n'y a pas de colonne vertébrale. Il n'y a rien. Un impie. Seigneur, j'étais un impie. J'ai respecté d'autres personnes plus que toi. J'ai adoré des idoles, des hommes. Je me suis adoré moi-même. Les psychologues chrétiens disent qu'il faut s'aimer soi-même. Et vous savez ce qu'ils disent encore? Ils disent que si tu ne t'aimes pas toi-même, premièrement, tu ne peux pas aimer Dieu ensuite et tu ne peux pas aimer ton prochain. Regardez-moi ça. Parlez-moi de déformer la parole de Dieu. Parlez-moi de tordre les Écritures. Le Seigneur n'a donné que deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ta force et ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Comme pour dire, tu t'aimes déjà beaucoup. Comme tu t'aimes beaucoup, aime aussi ton prochain. Il n'y a pas besoin d'avoir un commandement pour s'aimer. On le fait assez. On le fait de trop. C'est là notre problème. Et le Seigneur voulait dire, arrête maintenant. Tu penses trop à toi. D'abord Dieu. Ensuite ton prochain et toi à la fin. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. D'abord moi. Moi. Il y avait un grand homme dans le temps qui est mort maintenant en France. Un peu artiste et tout ça. Il aimait beaucoup un mot. C'était le mot année. Parce que dans le mot année, il y avait 12 mois. 12 mois. Et Moïse, 12 mois. Il était tellement égocentrique. Dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, nous dit la parole de Dieu. Et le texte grec, vous savez ce que ça veut dire? Le mot veut dire amoureux d'eux-mêmes. On enseigne cela dans le monde et maintenant on l'enseigne dans l'Église. Nous étions des impies. Et Dieu a aimé les impies. Quel amour! Voyez-vous, à partir du moment où on admet, j'étais cet impie. Et il vient. À partir du moment où je reconnais ma faute, il vient toujours pour me pardonner, pour me relever, me transformer. Mais tant qu'on ne reconnaît pas sa faute, il n'y a rien qui change. Tant qu'on met toujours la faute sur les autres, il n'y a rien qui change. J'étais un impie. Et Jésus est venu. Il est venu, un impie comme moi. Quel amour! Jamais tu ne douteras de l'amour de Dieu. Si tu as reconnu que tu étais un impie, qu'il est mort pour tes impies, que tu étais. Quel amour pour des impies. Troisièmement, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheur. Soulignez ce mot pécheur maintenant. Le mot pécheur, en grec, c'est amartolos. J'ai pas fait du grec, hein, je sais. Ça paraît un peu savant, là, mais... Faudrait pas que quelqu'un sache le grec ici, il va me tirer les oreilles après. Mais le sens, au moins, il sera là. Si la prononciation n'est pas bonne, au moins le sens sera là. Le mot pécheur ici, dans le texte grec, veut dire être adonné au péché, à tout ce que Dieu est, étant méchant, pervers et rebelle. Voilà ce que c'est qu'un pécheur. Et voilà ce que vous étiez, ce que j'étais. Non, je ne suis pas d'accord là. Pas d'accord. Pécheur, oui, on a fait quelque chose un peu de pas trop grave. Hein. Il y a pire que moi. Et tant que tu ne dis pas que tu t'es pire que les autres, jamais tu ne goûteras pleinement la puissance de l'amour de Dieu. Jamais tu pourras dire « Dieu m'a aimé ». D'une manière que je n'oublierai jamais. C'est pourquoi Paul disait qu'il était le premier des
pécheurs.
Vous vous rendez compte? C'est qu'il avait eu la révélation de ce qu'il était en tant que pécheur. Être adonné au péché, pratiquer le péché, à tout ce que Dieu est. C'est cela le péché, c'est faire ce que je veux au lieu de faire ce que Dieu veut. Tout ce que Dieu est, on le faisait. Et avec plaisir en plus. Il est mort pour des pécheurs. Quand un pécheur reconnaît qu'il a fait des choses que Dieu haïssait, qu'il a pratiqué des péchés que Dieu détestait, alors, et qu'il entend cette nouvelle, que Dieu, que Jésus est mort pour de telles personnes, alors, nous nous exprimons, quel amour! Quel amour! N'est-ce pas merveilleux? Quel amour! Il est mort pour moi, pécheur. Je ne méritais rien, mais il est mort quand même pour moi. Il m'a aimé. N'est-ce pas merveilleux?
Oui.
Il n'y a que ceux qui acceptent le verdict divin qui pourront goûter de cet amour divin qui vient ensuite pour pardonner, purifier et relever. Alléluia. Mais tant que vous vous élevez vous-même, Dieu ne pourra pas faire quelque chose dans votre vie. Au contraire, si vous vous élevez, Dieu fera tout pour vous abaisser. Et c'est quand vous vous abaissez que Dieu vous élèvera. Et je termine. Le mot ennemi. Veut dire, c'est un état, décrit un état d'hostilité, de haine, de guerre et de rupture avec Dieu. Voyez-vous, on n'a pas toujours été amis de Dieu. C'est un état d'hostilité, de haine, de guerre et de rupture avec Dieu. Et vous avez été cela, j'ai été cela, j'ai été ennemi de Dieu. Le péché, c'est vraiment une rébellion contre Dieu. C'est tout faire pour être en guerre avec Dieu. Et lorsqu'on voit que Dieu nous a aimés alors que nous étions de telles personnes, alors nous ne pouvons que dire quel amour. Tu as aimé une telle personne, rebelle, loin de toi, plein de haine, en rupture avec toi, tu m'as aimé. C'est lorsque nous étions dans un tel état qu'il est venu. Il n'a pas attendu que nous en sortions, parce qu'il attendrait encore maintenant. Il attendrait encore, parce que notre situation est désespérée. C'est pourquoi il est venu. Donc, tant que tu ne réalises pas cette situation désespérée de ta vie, que ce soit en tant qu'inconverti ou en tant que chrétien, Dieu ne pourra pas agir. Dieu fait toujours en sorte pour nous amener dans cette extrémité, comme le dos au mur, pour crier à lui de tout son cœur
C'est alors qu'il intervient et c'est alors que nous goûtons pleinement l'amour de Dieu dans notre vie. Et ce mot-là n'est pas un mot vain. Il a répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, juste un peu au-dessus, il est dit au verset 5, Romains 5, 5, « Or, l'espérance ne trompe point, mais parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Je termine par une pensée ici précise. Le mot « répandu » ici veut, dans nos cœurs, veut dire que c'est un mot qui veut dire que Dieu a répandu, mais il continue de répandre dans nos cœurs son amour, quelles que soient les tribulations par lesquelles nous passons. Donc à partir du moment où nous avons accepté cet amour de Dieu dans notre cœur, cet amour est continuellement renouvelé. Et cela tout spécialement au sein des tribulations et des angoisses. Voyez-vous, comme je vous l'ai dit au début, on arrive à la situation opposée maintenant. Beaucoup doutent de l'amour de Dieu à cause des troubles. Mais la parole de Dieu nous dit maintenant, c'est dans ces troubles que tu vas expérimenter la présence de Dieu. C'est pas en disant, Seigneur, délivre-moi de ces troubles, de ces persécutions, de ces tribulations, pour que je puisse expérimenter que Dieu m'aime. Non ! C'est dans ces troubles-là, dans ces difficultés-là, que le Saint-Esprit, si tu es né de nouveau, est répandu en toi et continue de répandre dans ta vie cet amour, cette expérience de l'amour de Dieu qui te fait espérer contre toute espérance en Dieu et en son amour, quelles que soient les tribulations. Alléluia.
Alléluia.
N'est-ce pas merveilleux? Nous pouvons encore dire quel amour, Seigneur. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cela veut dire que le Saint-Esprit continue de répandre cette certitude que Dieu nous aime. Pas seulement quand tout va bien. Ça, tout le monde peut le dire, même le païen, n'est-ce pas vrai? Même le païen peut bénir Dieu quand tout va bien. Même lui! Et il y a beaucoup de chrétiens qui agissent comme des païens. Quand tout va bien, ah, ils sont là, formidables. Mais quand tout va mal, il n'y a plus rien du tout. Ils se rebellent. Et contre Dieu, surtout, ça c'est une tragédie. Une tragédie. S'il y en a un que vous ne devez pas condamner, c'est bien lui. C'est vous-même que vous devez remettre en question, mais pas lui. Le Saint-Esprit qui a été répandu en toi veut répandre cet amour, spécialement quand tout va mal, quand tout est contre toi. L'amour de Dieu, par l'Esprit de Dieu, est en toi pour espérer contre toute espérance et te donner une espérance glorieuse. C'est utiliser les épreuves et les difficultés pour aller de l'avant et non pas pour nous arrêter. Parce que vous savez que Dieu vous aime, il l'a prouvé, son amour. Quand vous avez accepté ces quatre mots, quatre conditions ténébreuses pour vous, alors c'est à ce moment-là que l'amour de Dieu viendra vous consoler, répandre en vous cette consolation, cet amour divin qui vous fait espérer contre toute espérance. Que même si les hommes vous rejettent, le Seigneur, lui, est là. Il ne vous rejette point.
Amen.
Alléluia. Il ne vous a pas rejeté quand vous étiez impie. Il ne vous a pas rejeté quand vous étiez pécheur, quand vous étiez sans force, quand vous étiez son ennemi. Il ne vous a pas rejeté. Ne doute pas de son amour. L'amour de la croix. C'est le dernier témoignage de l'amour de Dieu pour les hommes. Si l'on ne croit pas cela, il n'y a plus d'espérance. C'est là que la preuve a été faite. C'est là que tu dois accepter ce verdict divin. Et tu expérimenteras cette merveilleuse présence et cet amour de Dieu qui vient toujours au bon moment, mais à ceux qui sont sans force, à des impies,
des pécheurs, à des ennemis. N'oublie pas, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu.
Perdu.
Perdu. Perdu. Je réfléchissais à cela l'autre jour. Voilà pourquoi Jésus a dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les prostituées, quand certaines, ont réalisé leur état de perdition, la noirceur de leur cœur, la pourriture de leur être. Et ont crié à Dieu pour être délivrées, purifiées, pardonnées et changées de vie. Et le Seigneur ne les a point rejetées, n'est-ce pas merveilleux? C'est pourquoi ils devanceront certains pharisiens,
dans le royaume de Dieu.
Certains qui se croient justes et toujours meilleurs que les autres et qu'ils ne veulent jamais admettre leurs faiblesses, leurs erreurs. Toujours ils ont raison, toujours. C'est les autres qui doivent demander pardon, mais eux-mêmes, jamais. N'est-ce pas une tragédie? Ceux-là n'expérimenteront jamais l'amour de Dieu. Tu peux passer pour un pauvre type ou pour une pauvre fille, mais dans ta faiblesse, Dieu ne t'abandonnera pas.
Jamais.
Le bon berger viendra toujours près de sa brebis.
Oui.
Petite brebis, ne t'éloigne pas du Seigneur.
Surtout.
Auprès de lui, tu seras bien gardé. Ne t'éloigne point de lui, surtout. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, encore des pécheurs. C'est quand tout allait mal qu'il se révèle à nous.
Alléluia.
Et nous découvrons d'autant plus cet amour extraordinaire qui fait que nous ne pouvons plus rester le même et que nous désirons à notre tour prêcher cet amour extraordinaire de Dieu manifesté à la croix.
Amen.
Que Dieu bénisse sa parole. Et que sa parole porte du fruit en nous, et que nous soyons ainsi des chrétiens qui glorifient le Seigneur, et qui ne doutent jamais de son amour, au contraire, se fortifient dans cet amour, quelles que soient les circonstances, et ne sont encouragés, jour après jour, à lui être fidèles. Que Dieu soit béni, dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen.
Seigneur, merci.
Alléluia,
pour ta parole qui est la vérité.
Alléluia,
sanctifie-nous par ta vérité.
Alléluia, Jésus.
Seigneur, que ton Esprit Saint nous révèle ces réalités glorieuses.
Alléluia, Jésus.
Des réalités qui bousculent, mais c'est la parole de Dieu.
Oui,
si tu détruis, Seigneur, c'est pour construire.
Alléluia, Jésus.
Ce n'est jamais pour le plaisir de détruire.
Alléluia, Seigneur.
Tu détruis pour construire.
Jésus.
Nous voulons laisser, Seigneur, ton esprit faire son œuvre en nous. Nous abaisser, afin que tu puisses nous élever au temps convenable.
Amen.
Nous voici, Seigneur. Merci. Parce que dans ces moments-là, ton amour extraordinaire se manifeste. Nous n'en douterons plus jamais et nous serons des témoins qui te glorifieront. À ton nom soit toute la gloire. Merci d'avoir prouvé ton amour envers nous. Merci Jésus. Tu le fais quand nous étions plus pâles et au plus loin de toi. Tu es venu. Merci Jésus.
Merci Seigneur
pour cet amour
Jésus.
Dont nous ne nous lasserons jamais de chanter, de proclamer autour de nous. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Restons dans le recueillement.
Le Seigneur va continuer de parler par des paroles plus personnelles encore, adressées à certaines personnes au milieu de nous. Quelques paroles d'encouragement que le Seigneur a adressées pour des situations toutes particulières, pour une personne au milieu de nous qui fait face à une multitude d'obstacles sur sa route, sans entrevoir jamais d'issue à sa situation. Et alors le Seigneur te dit, avec sa tendresse habituelle. « Mon enfant, ne désespère pas lorsque les choses deviennent difficiles. Je veille, moi, ton Seigneur, sur tout ce qui t'arrive et tous ces obstacles qui te semblent être de hautes montagnes, je les transformerai en chemin tout tracé pour toi. Voici, je prépare pour toi un chemin là où il n'y a pas de chemin. Je peux même frayer un chemin dans le désert et faire jaillir des fleuves dans la solitude. Je sais aussi aplanir les chemins escarpés que tu as pris. Je suis celui, te dit le Seigneur, qui restaure les chemins et qui transforme une situation désespérée en un lieu habitable. Alléluia, Seigneur.
Amen.
Oh, merci, Seigneur.
Merci, Seigneur.
Tu consoles profondément cette personne-là qui est désespérée sur un chemin sans issue. Mais tu lui dis, je marche devant toi, ne crains point, je marche devant toi. Je rendrai ton chemin habitable pour toi. Alléluia. Et une autre personne à laquelle, qui est aussi dans une situation difficile, le Seigneur dit, ta situation deviendra parfaitement gérable pour toi. Rappelle-toi que je suis le restaurateur des brèches. Je suis avec toi, j'ouvre mon arche et je la ferme derrière toi. Tu n'as donc rien à craindre. Reste bien près de moi et cette situation difficile ou douloureuse pour toi s'aplanira. Y a-t-il donc quelque chose de trop difficile pour moi, dit le Seigneur? Crois seulement et reçois jour après jour ma force, mon soutien, mon secours. Ils te conduiront à bon port. Alléluia, Seigneur.
Merci, Seigneur.
Et puis, pour une personne qui traverse des circonstances effrayantes et qui, à cause de cela, est très troublée, passes-tu actuellement par les eaux profondes de l'épreuve, te dit le Seigneur, et de la déception? Souviens-toi que je suis au gouvernail de ta vie, que ma main puissante et compatissante contrôle les circonstances de ta vie. Ne t'effraie point. Si je permets cette situation, c'est parce que j'ai un plan pour toi. Alors fais-moi confiance, en dépit de ce qui t'arrive. Alléluia. Maintenant, j'aimerais qu'on se lève dans la présence de Dieu parce que le Seigneur va étendre sa main sur quelques malades au milieu de nous. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Continue d'être. Alléluia. Oh, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Nous sommes ces petites brebis que le bon berger aime tellement, tellement, tellement. Oh, venons à lui. Il est notre secours dans la détresse. Il ne veut pas nous laisser dans la détresse, dans la maladie, dans le désespoir à cause de la maladie. Et le Seigneur touche maintenant quelqu'un qui a des ulcères d'estomac. À force d'en avoir, c'est devenu une infirmité de l'estomac. Et le Seigneur pose sa main bénissante et guérissante sur toi. Reçois l'attouchement du Seigneur. Il est près de toi et fait couler de l'huile dans ton estomac. De l'huile, son baume. Et il guérit ton estomac. Il l'apaise. Et désormais, tu pourras bien digérer tes aliments, sans frayeur, sans mal, sans douleur. Alléluia, alléluia. Oh là là, j'oubliais quelque chose d'important. Le Seigneur fait quelque chose de merveilleux. Alléluia. Il guérit actuellement un cerveau au milieu de nous. Et il dit ceci. si je suis le créateur de l'univers, que personne n'a encore mesuré et ne pourra jamais mesurer, comment pourrais-je ne pas contrôler les microcellules de ton organisme ? Je suis le Dieu de l'infiniment grand, mais je suis aussi le Dieu de l'infiniment petit. Je suis aussi le Dieu de tout ce qui est microscopique. Et si je contrôle l'univers, je contrôle aussi ce qui se passe actuellement dans ton organisme et je remets aujourd'hui en place et en bon fonctionnement certaines cellules de ton cerveau qui sont atrophiées et qui, jusqu'ici, ont refusé de fonctionner. Alléluia! Merci Seigneur pour ta puissance! Alléluia! Merci Seigneur pour ta guérison dans ce cerveau actuellement où il y a des cellules atrophiées. Merci Seigneur. Oh, sois glorifié au milieu de nous Seigneur! Alléluia! Alléluia! Gloire! Gloire! Gloire à Jésus le ressuscité! Jésus le vivant! Jésus! 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 Alléluia! Alléluia! Il y a aussi une sinusite chronique qui disparaît. Tes maux de tête ne disparaissent ou en quelque sorte jamais. Toujours tu as mal à la tête. Tout le temps, tout le temps. Et le Seigneur pose sa main sur maintenant ce qui ne va pas dans ta tête. Et il te guérit de cette infirmité. Au nom de Jésus, reçois la guérison dont tu as besoin. Le Seigneur est près de toi. Alléluia. Et il guérit ta tête. Là où est la manne, il y a aussi un genou extrêmement fragile qui a de la peine à se plier depuis de longues années car le cartilage est rongé et les douleurs parfois insoutenables. Alors reçois la guérison du Seigneur. Reçois-la maintenant. Alléluia. Il pose sa main sur ton genou et te permet de plier ton genou normalement. Alléluia pour la puissance de Jésus. Oh, alléluia, alléluia, Seigneur. Encore une dernière chose, une sorte de fibrome. Une dame a une sorte de fibrome qui risque de se transformer en tumeur maligne. Alléluia. Et le Seigneur contrôle cela. Il t'a donné rendez-vous ici parce qu'il voulait te toucher. Et maintenant, il te touche à ton utérus. Au nom de Jésus, reçois l'accouchement du Seigneur et sois délivré de ton mal. Sois guéri de ce mal qui te mettait en danger et qui désormais n'est plus en danger pour toi. Parce que Jésus l'a touché. Il a transformé la chose en presque tumeur maligne. Il le fait disparaître. Alléluia. Merci Seigneur. Loué sois-tu. Levons nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Être acclamé. Dis, être loué. Loué, 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 loué sois-tu Seigneur. Alléluia Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Merci Jésus pour ta présence divine. Alléluia. Tu marches devant nous. Alléluia. Tu es là. Et tu marches avec nous.
Yes. parole de Dieu, tu verras la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Et on applaudit le Seigneur. Il dit, de notre conscience, vive de notre amour, vive de notre reconnaissance. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus.
Il n'y a rien d'impossible pour
Jésus. Loué sois-tu, Jésus.
En hommes et dans son
alléluia, alléluia, alléluia.
Viens-toi agir.
Amen, amen, amen.
Afin que Dieu soit glorifié.
Oui, oui, Jésus.
Et que Dieu seul soit glorifié.
Alléluia, Seigneur.
À lui seul soit toute la gloire. Et maintenant, il n'y a jamais.